Bonjour David, bonjour à tous. Les premiers contours de la future carte scolaire des Deux-Sèvres dévoilés hier. 28 fermetures pour 9 ouvertures avec un impact tout particulier sur les RPI, les groupements pédagogiques intercommunaux. L'incompréhension du corps enseignant du campus Terre et Paysage face à une restructuration de l'offre de formation. Ils manifestent leur colère ce jeudi devant l'établissement à Niort. C'est l'un des temps forts de la programmation de la saison. La semaine prochaine, le théâtre de Bressuire accueillera l'œuvre devenue culte de Christian Rizzo d'après une histoire vraie. Les bassins du Touet ont rouvert en ce début de semaine, fort d'une fréquentation record en 2024 et ne comptent pas en rester là. Quant à la météo, le ciel restera voilé cet après-midi. Alors que le recteur avait annoncé 30 postes en moins dans le premier degré, dont 10 sur le seul département des Deux-Sèvres, on se doutait bien que la carte scolaire serait très déséquilibrée avec beaucoup plus de fermetures. C'est donc malheureusement le cas. Les premières mesures de cette carte scolaire ont été dévoilées hier matin. 28 fermetures donc pour 9 ouvertures de classes envisagées à la rentrée prochaine de notre département. Sur la circonscription de Bressuire par exemple, cela se traduit par des fermetures à l'école Ernest Perrochon de Courlay, élémentaire de Lapsy, primaire de Clazé, primaire du Breuil-Bernard, pour une ouverture à l'école élémentaire de Montcoutant. Le regroupement pédagogique intercommunal Les Quatre Saisons de Montigny-la-Forêt-sur-Sèvre est placé sous surveillance et pourrait perdre une de ses deux classes à la rentrée prochaine, d'où la stupeur de l'association des parents d'élèves, représentée ici par Amélie Bibard.
On a été très surpris, on savait que l'effectif en fait des enfants était relativement bas. Surtout que là, ils avaient des conditions d'apprentissage quand même relativement bonnes. Le taux de réussite est excellent. Et puis là, du coup, bah, s'il ferme une classe, ça veut dire qu'il va rester plus qu'une classe de maternelle sur le site de la forêt. Actuellement, il y en a deux. Donc, ça paraît juste impossible pour nous.
À terme, ce que l'on peut craindre, puisqu'il ne reste plus qu'une classe, c'est la fermeture définitive de l'école.
C'est ça. En plus, la commune vient de s'agrandir, il y a des commerces qui s'installent, il y a un lotissement qui est en train de se créer, il va forcément y avoir d'autres enfants à venir. La forêt, c'est quand même une commune qui bouge, donc sans école publique sur place.
Avez-vous déjà alerté les élus locaux?
Oui, la mairie est au courant, on a fait appel à eux, il y a des pétitions qui sont en cours dans la commune et puis aux alentours, une pétition en ligne aussi pour avoir un maximum de signatures.
Amélie Bibard, membre de l'APE du groupement pédagogique intercommunal Montigny-la-Forêt-sur-Sèvre, la Forêt-sur-Sèvre qui pourrait donc perdre une classe à la rentrée prochaine. L'association appelle d'ailleurs les parents d'élèves, les élus et la population générale à se mobiliser pour réclamer le maintien de cette classe mardi prochain à 16h devant l'école forésienne. Globalement, d'ailleurs, les RPI payent cher ces mesures avec 10 fermetures dans le Mélois, le Marais, le Parthenésien et le Toircé. Le Toircé qui perd 5 classes, dont les primaires de Brion et Saint-Varon. Seul, le Niortais a une balance positive avec 4 ouvertures pour 2 fermetures. Vous l'imaginez bien, tous les syndicats ont voté contre ces premières mesures et notamment Force Ouvrière Enseignement, représentée par Éric Chabot, qui déplore en premier lieu le sort réservé aux écoles rurales.
Ce qu'on peut constater, c'est que sur l'ensemble des 28 fermetures, il y en a 10 qui concernent des RPI, c'est-à-dire les parties les plus rurales de notre département, puisqu'on a bien compris que la priorité aussi du recteur, c'était de dire nous ne voulons plus de petites écoles isolées, ce qu'on appelle les écoles isolées. Vous savez, les RPI, c'est par exemple une école qui est répartie sur 3 petites communes. Mais on voit bien que la volonté, c'est quand même d'attaquer un peu le rural, parce que le rural coûte trop cher, selon le recteur et la directrice académique. Et il faut donc petit à petit alléger ce maillage scolaire qui coûte trop cher. Donc c'est quand même un peu catastrophique parce qu'on est quand même un département extrêmement rural. Sans volonté politique de soutenir tous ces coins ruraux qui sont importants dans notre département, eh ben on court à une désertification annoncée.
Il y a une baisse démographique indéniable, certes, 600 élèves en moins à la rentrée prochaine, mais les syndicats comme d'autres regrettent que l'on n'en profite pas pour renforcer l'encadrement. Dans une semaine, jour pour jour, la DAZN convoquera une nouvelle commission. Avant le CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale, qui doit entériner ces mesures. Il y aura une nouvelle réunion en juin, avec peut-être certains ajustements. La directrice académique des services de l'éducation nationale ayant gardé quelques moyens à disposition. On parle de 6,5 équivalents temps plein. Toujours au chapitre éducation, la mobilisation ce jeudi au lycée horticole de Niort. Le campus Terre et Paysage compte deux sites, un à Niort, le lycée horticole Chessas, dans le quartier Sainte-Pezenne, l'autre à Mel, avec le lycée agricole Bugeaud. Les deux sites de formation ont fusionné il y a une petite quinzaine d'années pour donner vie à une structure qui regroupe plus de 600 jeunes en formation chaque année, de la classe de 3e au BTSA de 14 ans à l'âge adulte pour les reconversions professionnelles. Ce matin, les manifestants se sont rassemblés devant le lycée pour s'opposer à la fermeture de la filière production horticole par apprentissage et du centre de formation des apprentis agricoles de Niort, pour dénoncer également le déplacement des formations en aménagement paysager à Mel et la réduction de la dotation globale horaire qui aboutirait à une fusion des classes de première. Jean-Pierre Noulin, il est enseignant, il est par ailleurs délégué syndical Force Ouvrière.
La direction régionale de l'agriculture, qui est l'équivalent du rectorat pour nous, et la direction d'établissement a fait le choix de fermer le centre d'apprentissage présent sur Niort pour l'amener vers Mel. C'est une aberration pour nous, puisque l'emploi, les lieux d'apprentissage, voire les lieux d'habitation des apprentis sont plutôt sur le Niortais et non sur le Mélois. Et aussi moins de place, puisque en classe de seconde, on a à peu près un potentiel de 40 élèves qui peuvent poursuivre en première. Et là, jusqu'à maintenant, on avait deux classes de première, donc ce qui permettait d'avoir des classes non surchargées en classe de première. Et là, on nous dit, l'an prochain, il n'y aura plus qu'une classe de première, et donc limitée à 32 élèves.
Cette grève et ce rassemblement aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'une mobilisation nationale qui vise à alerter sur la baisse des moyens dans l'enseignement agricole, qui baisse de moyens qui risque d'entraîner une restructuration de l'offre sur le plan régional.
Le fait que beaucoup d'établissements sont dans des difficultés financières délicates, c'est notamment, et ça je crois qu'il ne faut pas le renier, c'est le cas de notre établissement. Il n'est pas non plus dans une situation catastrophique, mais plutôt délicate. Alors même, et c'est là où on démontre l'aberration, cette aberration politique, qu'on nous demande, et ça c'est une exigence politique qui est prévue dans la loi d'orientation là, qui est en cours, à recruter 30% de jeunes en plus dans nos formations pour assurer le renouvellement des générations. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on nous demande d'accueillir 30% de jeunes en plus. C'est impossible à faire, c'est inadmissible. On est effectivement dans un discours de politique de façade. Les décisions là, qui sont en train d'être prises vont conduire à des charges, à des classes pardon, de plus en plus chargées. Et donc, des jeunes à besoins particuliers qui vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver leur place dans nos établissements.
Des établissements qui en général accueillent bon nombre d'élèves en situation de handicap, souligné Jean-Pierre Nolin, enseignant au lycée horticole de Niort et délégué syndical Force Ouvrière avant la manifestation de ce jeudi. Personnels enseignants, formateurs et administratifs qui, dans leur combat, ont le soutien du maire de Niort et président de l'Aglo, Jérôme Baloge, qui vient d'écrire à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au sujet de la restructuration de l'offre de formation au sein de ce campus, en indiquant notamment que, je cite, cette décision prise unilatéralement, sans concertation avec les représentants du personnel et les élus locaux, sans prise en compte de l'intérêt des élèves, fait peser un risque important pour l'avenir de cet établissement et pour le territoire niortais. Fin de citation. Culture, 11 ans après sa création en 2013 au Festival In d'Avignon, c'est un grand moment que va vivre le théâtre de Bressuire avec le retour sur scène de l'œuvre devenue culte de Christian Rizzo d'après une histoire vraie. Puisant ses racines dans les danses traditionnelles du bassin méditerranéen, c'est une pièce magistrale que Béatrice Depagne, la directrice de scène de territoire, a le plaisir de programmer à Bressuire, et son enthousiasme n'a d'égal que la virtuosité des deux batteurs et 8 danseurs autour du chorégraphe Christian Rizzo. Béatrice Depagne, au micro colline de Jacqueline Pinon.
Événement majeur, la reprise par Christian Rizzo, qui est le directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier, d'une de ses pièces cultes qui s'appelle D'après une histoire vraie, qui était la première pièce en fait à s'inspirer de danses traditionnelles méditerranéennes, mais pour les emmener ailleurs dans une danse plus contemporaine. Et accompagné de deux batteurs absolument incroyables, donc on est complètement galvanisé. Enfin, c'est une pièce qui a tourné partout dans le monde et qui aujourd'hui est reprise. Donc incontournable.
D'après une histoire vraie au théâtre de Bressuire, c'est donc mardi prochain, le 18 février. Vous l'avez compris, c'est à ne pas pas manquer. Le Centre socioculturel du Pays Moléonais lance sa troisième édition dédiée au secteur de la petite enfance, et ce en lien avec la semaine nationale sur cette thématique. Celle-ci se déroulera du samedi 15 au vendredi 21 mars en itinérance sur le territoire du Moléonais. Pour ce faire, un collectif de 10 parents, une assistante maternelle et 4 professionnels du CSC se sont réunis à plusieurs reprises pour concocter un programme à destination des familles, des enfants, des professionnels. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Après une année de feu, les animations continuent au bassin du Touet. Et parmi le bel héritage de 2024 figure le bilan de la fréquentation des piscines du Touarcé, Thouars et Saint-Varan. Le défi va être difficile à relever pour cet équipement pour lequel les élus de la communauté de communes accordent un budget annuel de 500 000 euros. Résumé avec Gaël Penaud, élu chargé des sports, au micro-colline de notre correspondant Touarcé, Dominique Hérault.
2024 s'est très bien passé pour nos piscines du Touarcé, avec un bilan, on va dire, très positif, avec plus de 100 000 entrées sur les bassins du Touet. Et cela malgré une saison estivale quand même où la météo n'a pas été au rendez-vous. Sur 2024, c'est quand même pour l'instant la meilleure année que nous avons eue. Nous avons une structure des bassins du Touet très attractive avec une offre de cours qui est adaptée à la demande. Par exemple, cette année, nous avons mis en place de nouveaux cours, 2 cours d'aquabike le lundi et le jeudi et 2 cours d'aquagym le jeudi et le vendredi. Et ce sont les cours sur lesquels nous avions le plus de demandes. Le bassin nordique a été fermé comme tous les ans pour sa période d'entretien, ce qui nous permet de faire différentes interventions obligatoires, notamment la vidange et puis tous les organes de fonctionnement.
Et il a réouvert d'ailleurs en ce début de semaine, le 10 février précisément. Concernant les vacances scolaires de février, l'équipe des bassins a mitonné un programme aux petits oignons pour les juniors.
Pour les vacances de février, un programme d'animation est proposé avec notamment un après-midi carnaval avec des animations dans l'eau et des crêpes offertes aux enfants. Et ça, les crêpes, ça sera le mardi 4 mars. Alors toutes les animations que nous organisons au bassin du Touet, le public répond présent. Et j'en profite pour parler de la soirée zen de jeudi 13 mars 2025.
Pour cette soirée zen, il suffit de s'adresser à l'accueil des bassins du Touet. Le ticket de 25 euros ouvre droit à un soin, un cours et un accès à l'espace détente hammam. De son côté, la piscine eau solaire de Saint-Varan vient de rouvrir après un mois de fermeture technique. Elle offre désormais des horaires élargis et de nouveaux créneaux d'activité pour répondre à une demande croissante. Reportage signé Dominique Hérault. Le chapitre des faits divers. Un jeune homme de 24 ans demeurant au Busseau a été placé en garde à vue hier à la gendarmerie de Niort. Un peu plus tôt dans la matinée, à Villiers, ce dernier a refusé de se soumettre à un contrôle routier. C'est la brigade motorisée qui l'a intercepté à l'entrée de la capitale de Sévrienne, alors qu'il circulait sans permis de conduire, sans assurance, sans contrôle technique, sous l'emprise de stupéfiants et à une vitesse excessive. Une pollution aux hydrocarbures constatée en fin de matinée ce jeudi sur un étang communal à Saint-Aubin-le-Clou, sur environ 400 mètres carrés. Les gendarmes s'y sont déplacés, tout comme des représentants de l'ARS ainsi que de l'Office français de la biodiversité. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les conséquences de cette pollution.